Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tu te souviens de l'annonce de la grossesse, toi ?
Alors, ce qui est très drôle, c'est que en fait, c'est moi qui lui ai dit « Je pense que t'es enceinte.
» Attends, je crois que c'est la première. Je réfléchis, là, mais je scanne 150 épisodes. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je sais pas. Elle a commencé à avoir vachement de petits boutons.
Ok.
Et en fait, on savait que, on avait arrêté,
ouais.
Qu'il y avait eu, que ça pouvait arriver, quoi. Et elle a jamais de petits boutons, donc en fait, je me suis dit, si ça se trouve, c'est poussé d'hormones. Donc je lui ai dit, tu vas pas faire un test. Donc, je crois qu'elle en a fait un genre le lendemain ou truc comme ça, le lendemain matin.
Observateur, Clément. Hein.
Il était positif.
Incroyable.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir. En allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
Donc on enchaîne un peu là, mais bon, voilà.
Je crois que j'ai jamais été autant malade que pendant les 3-4 premières années de vie de mes enfants, quoi.
C'est terrible.
C'est un peu un petit cadeau, quoi, tu vois, qui te file, quoi.
Ouais, puis tu sais, quand t'es pas parent, t'oublies ce que c'est qu'une gastro.
Ouais.
Tu te souviens que c'est pas drôle, mais quand tu dois t'occuper d'un enfant qui a la gastro et que toi t'as la gastro, tu te rends compte que c'est vraiment pas drôle.
Ah oui. Il y a un souvenir qui vient de me remonter là. Ah putain, j'avais oublié.
Ouais. Voilà, donc.
Alors il faut que tu mettes le micro bien proche de. Voilà.
Ok, je savais pas si tu voulais que je le mette.
Comme ça.
J'ai tendance à parler très fort donc.
Bah t'inquiète, je vais régler un peu le son et tout. Okay. Comme ça, sans problème.
Ça marche.
Clément, bienvenue.
Merci.
Clément, tu es un peu l'incarnation de croyez en vos rêves, puisque tu m'as écrit un mail il y a un peu plus d'un an maintenant.
Ouais. En me disant un peu, je ne sais pas, on ne sait jamais.
Merci pour ta patience. Il y a parfois des moments. Hein. Puis d'ailleurs, j'imagine que c'est mieux de se rencontrer aujourd'hui qu'il y a un an.
Certainement, parce qu'en plus, entre-temps, j'ai eu un deuxième enfant.
Voilà, c'est pour ça. Je me disais.
Qu'il y avait change des choses dans les dynamiques familiales, je pense.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Mais
le deuxième, c'est... Pour moi, le deuxième, c'est encore plus branle-bas de combat que le premier, quoi. Parce qu'il y a aussi le premier à gérer.
Ouais, et du coup, là, le premier, tu vois, il est en vacances pendant 2 semaines chez ses grands-parents. Et en fait, on se dit, putain, en fait, c'est facile avec un. Surtout quand il a 6 mois.
Ouais.
Où finalement, il dort, il mange, il dort.
Ouais.
Il gazouille un peu, mais voilà, quoi. Alors que le premier, à 3 ans et demi, évidemment, c'est une boule d'énergie, quoi. Donc, quand tu le récupères de l'école le soir, bah, T'as un deuxième morceau de journée qui commence et qu'il va falloir, assurer, quoi.
Ok. Donc Clément, t'es papa depuis, tu le disais, 3 ans et demi, c'est ça?
C'est ça. Notre premier, donc Gaspard, est né en mai 2020. Et Léon est né cette année en avril 2023.
Mai 2020, je subodore une histoire. Mai 2020, donc vraiment oui. Post-confinement.
Deux semaines, j'ai plus d'être exact en tête, mais un truc du genre...
C'était le 11 mai, moi je m'en souviens.
La fin, et ben.
Ouais, après, j'ai pas la date de naissance.
Gaspard est né le 29.
Ouais, voilà, 15 voilà. Jours après.
Ouais. Donc, 15 jours après. Avec toute une partie de fin de grossesse où moi j'étais en train de me dire s'il y en a un qui essaye de me faire partir de la salle d'accouchement, je pense que je le tape.
Ah ouais, toi t'es dans la violence.
Vraiment, je voulais pas. Non, genre vraiment juste, c'était hyper important pour moi d'y être et j'aurais très mal vécu, je pense, qu'on me fasse sortir. Parce qu'au tout début...
Ah, t'as quand même assisté à l'accouchement, là ?
Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, je pense que 2 semaines après le premier confinement, la maternité a dit, les papas peuvent revenir aux accouchements et rester pendant tout le séjour.
Ouais, donc ça s'est joué à quelques jours.
Mais par contre, interdit de sortir.
Ah oui.
Donc, finalement, on a vécu confinés pendant la durée de post-accouchement.
À l'hosto aussi.
À l'hosto, tous les trois, ouais, voilà.
Ok. Bon Clément, on va parler de tout ça et effectivement de la naissance de ton deuxième, de pourquoi en faire un deuxième.
Pourquoi la question est posée.
Dans la vie, parce que j'en parle parce que j'imagine que tu veux aussi en parler. T'es entrepreneur, c'est ça?
Oui, c'est vrai qu'on peut le dire comme ça, effectivement, ouais. Ouais.
Pourquoi t'aurais dit comment? T'es chef d'entreprise, t'as créé ta boîte?
Ouais, mais parce que je pense que la caractéristique principale, quand je parle de mon métier, c'est pas tellement de dire que je suis entrepreneur, mais c'est plutôt de parler du secteur d'activité dans lequel je travaille. Donc moi, je fais de la chimie. J'ai fait une thèse en mélangeant deux amours, la chimie analytique et l'informatique, que j'ai apprise de mon côté en autodidacte. Et du coup, maintenant, je suis pas très loin de ce qu'on pourrait appeler un data scientist aujourd'hui. Okay. Donc, on entend beaucoup, un peu partout. Mais voilà, moi, je travaille au-delà du data scientist. Je travaille vraiment très précisément à qu'est-ce qu'on fait d'une donnée qui est acquise dans un laboratoire et comment on l'exploite pour répondre à des besoins. Donc, moi, je travaille dans un secteur qui s'appelle la chimie analytique. Le but, c'est d'essayer de comprendre ce qui est dans un produit, hein. La chimie analytique, elle est partout, on va dire. Tout ce qu'on touche, tout ce qu'on mange, tout est analysé dans des laboratoires, après une production, après des choses comme ça, pour vérifier des molécules, type pesticides, allergènes, pour essayer de comprendre comment est composé ton produit, pour essayer parfois de regarder comment est composé le produit du copain d'à côté. Il y a plein de choses différentes qui se font dans ces laboratoires, mais c'est des laboratoires qui vont générer beaucoup de données. Et qui, pour l'instant, était encore très mal exploité.
Voilà. Ok. Donc, tu as monté cette
boîte vie aujourd'hui.
Pour faire ça.
Ouais.
Il y a combien de temps?
Alors, j'ai fini mon école d'ingé en 2015. Donc, ma thèse a été financée par l'activité que j'avais à côté.
Ok.
Par la boîte. Et je travaille là-dedans depuis fin 2015, début 2016.
Ok.
Donc, on approche bientôt des 10 ans. Ouais.
Sacré cap.
Ouais.
Ok. Ton désir de paternité, Clément, d'où vient-il?
Je pense que t'as déjà eu plein de fois cette réponse, mais je pense que c'était toujours là. Moi, je viens d'une famille de 5 enfants. J'étais un peu animateur colo.
Le BAFA, le BAFA.
C'est ça.
Team BAFA.
Je pense que ça a toujours... Enfin, il n'y avait pas de doute pour moi que j'aurais des enfants.
T'avais des petits frères? T'étais l'aîné?
Je suis le deuxième de 5.
Ok. Ouais.
Donc j'ai eu deux petits frères et une petite sœur.
Et tu t'en occupais de façon un peu naturelle?
Alors on est assez rapprochés quand même.
Ah oui.
J'ai 3 ans avec mon frère juste en dessous, 4 ans et demi et ensuite 8 ans.
Donc, ouais. En vrai, à 8 ans d'écart, il y a moyen de s'investir dans un,
ouais, en fait,
dans
le,
un petit frère. Quoi.
Surtout le décalage qui s'est créé, c'est vers 18-19 ans quand tu commences à partir de la maison en fait. Et où le petit frère, lui, est encore dans des niveaux d'école qui sont... il est petit, quoi. Il avait 10 ans la dernière. Donc,
c'est une petite sœur, pardon.
C'est une petite sœur la dernière,
Pardon si tu nous écoutes. Ok.
Donc, ouais, globalement, j'étais... Enfin, ça, j'avais été mis en doute que moi, j'avais envie d'avoir des enfants aussi. Mmh. J'ai toujours aimé m'occuper d'enfants déjà. Et puis, puis j'ai toujours aimé transmettre. J'ai toujours aimé voilà, ce côté...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
On essaye d'apprendre des choses, on essaye de partager des choses qui nous sont importantes. Voilà.
Okay.
Je pense que c'est un peu tout ça de mêlé. Quoi.
Ok, ok. Tu m'as dit que tu avais rencontré ta compagne, ta femme au lycée, c'est ça?
Ouais.
Waouh.
On fait partie des high school sweethearts.
Ouais.
ouais, on s'est mis ensemble en terminale. Donc, j'étais même pas majeur, j'avais 17 ans.
Mm.
Voilà. 17 ans, et du coup, donc c'était 2008. Donc ça fait 15 ans. Ouais. Ça fait 15 ans. On a eu une vie pas mal. Enfin, en tout cas, les on va dire jusqu'en 2015 quasiment, on habitait ensemble par intermittence. Alors pas au début évidemment. Hein. On a emménagé ensemble la première fois en 2012.
Ok.
Mais moi j'étais pas. Enfin, on était tous les deux pendant des études à ce moment-là.
Mm.
Et donc, moi, j'étais en apprentissage en école d'ingé chimie, sauf que mon école était à Compiègne,
okay.
Et mon entreprise à Neuilly. Et donc, on a habité à Paris ensemble. Mmh. Donc, moi, j'étais pas là pendant un mois, puis je revenais. Ensuite, j'ai fait ma thèse. Donc, mon labo était à Clermont.
Ok.
Et on habitait toujours à Paris.
Et vous avez réussi à tenir malgré la distance. Hein. C'est des vrais challenges pour les couples qui sont ensemble depuis un petit moment là, comme
ouais,
ça.
Complètement.
Des moments
ouais.
De distance.
Ouais, ouais. Donc on a vécu ouais globalement de 2012 à 2019 parce que j'ai soutenu ma thèse en 2019. On a vécu pas mal par intermittence quoi.
Ok.
Des phases là, des phases pas là.
Okay.
Plus ou moins en fonction des périodes, mais ouais.
Ok. Donc là, on peut dire que depuis genre 4 ans, en fait, vous expérimentez vraiment le couple tel qu'il... enfin, la vraie vie de couple, entre guillemets, la vraie vie de couple.
Ouais, de tous les jours.
L'un sur l'autre.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais,
avec le confinement en plus.
Complètement avec le confinement. Avec l'achat d'un appartement en 2018, donc à Paris, pendant la thèse, à la fin de la thèse. Et puis après, on est parti donc à Bordeaux en 2021.
Ok. Je disais pour tous les Bordelais qui nous écoutent, ah bah tiens, encore un Parisien qui allait s'installer à Bordeaux, que tous les Bordelais vont pouvoir détester. Coucou c'est les ça, Bordelais ouais. C'est fou parce que moi, dès que je vais à Bordeaux et que je dis bonjour, bah moi je vis à Paris, tu te fais insulter assez gratuitement, t'es là. Eh bien, je viens juste vous rendre visite, mais bonjour. Après, bon, je comprends.
Ouais, bah ça a été. Je pense que
c'était
ça a
le
été
grand rush, le grand
ouais,
exode.
En fait, ça a été vraiment l'arrivée de Gaspard hein, qui a vraiment déclenché. On adorait Paris, on y a vécu depuis 2012, dans le 10e, puis dans le 18e. Donc,
vous vouliez pas élever un enfant à Paris ?
Alors moi, ça m'aurait pas posé de problème, mais il y avait deux questions en suspens. La première, c'était la surface habitable.
Toujours.
Donc, ouais. Donc, on a vécu quand même avec Gaspard pendant une bonne année, dans 37 mètres carrés. Hein.
Ah ouais.
Donc, avec le confinement au milieu.
Ah ouais.
Parce qu'il y a eu le premier, Gaspard est né après, mais après il y en a eu deux autres quand même. Bon, on a eu de la chance, on a des beaux-parents qui nous ont un peu accueillis, etc. Mais bon, c'était quand même des phases bizarres, quoi.
Ouais. Bon, ça teste un peu la... la cohésion de l'équipe, quoi.
C'est ça, ouais, ouais. Et donc, c'était déjà donc, voilà, une recherche, on va dire, de mètres carrés, et puis une envie aussi... Enfin, ouais, moi j'avais pas très envie de partir en banlieue. Donc on s'était dit que on avait envie de partir, on savait pas trop comment. Puis en fait, moi j'ai toujours travaillé totalement dématérialisé, donc que je travaille de Paris ou de Bordeaux, moi ça change rien. Je me déplace chez mes clients et après je travaille de la maison. Et en fait, après la naissance de Gaspard, ma femme a changé de travail, elle est avocate.
Ok.
Elle a été recontactée par une ancienne boss qui lui a proposé un full remote.
Donc télétravail donc, total quoi.
Télétravail total. Donc là on a dit en fait du coup on peut aller où on veut. On se casse alors.
OK. Voilà. Et pourquoi Bordeaux? Tu disais que tu avais de la famille, c'est ça là-bas?
J'ai un peu de famille là-bas, puis on voulait quand même une ville qui nous permette d'accéder à Paris rapidement. Donc Bordeaux ça c'est quand même assez idéal et puis l'envie d'aller un peu proche de la mer. Moi mes parents sont à Toulouse donc ça me permettait aussi de nous rapprocher un peu. Voilà.
D'accord. Bon, comment ça se passe cette envie d'enfant et cette discussion d'enfant avec ta compagne?
Alors du coup, ça se passe pendant la thèse.
Ok.
Parce que comme on trouvait que une thèse plus vivre à distance, c'était pas suffisant. On a acheté un appart et on a commencé à parler de bébé.
Ah ouais, vous étiez depuis 10 ans ensemble déjà.
Ouais.
Un dos.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait ensuite là?
Donc, on s'en est un peu parlé en se disant que de toute façon, oui, ça avait été toujours une envie. Mais on se disait quand même, une naissance pendant la thèse, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, on se disait, on commencera à essayer après.
OK.
Voilà. Dans les plans de vie, c'était, je soutiens ma thèse. Et puis, une fois que j'aurais pu revenir enfin full-time Paris, on lance un projet numéro 2, quoi. Et puis, en fait, d'en rediscuter. Puis vient avril, 2019, du coup. Et on se dit, finalement, quand même, là, de toute façon, même si tu tombais enceinte, puis c'est pas dit que tu tombes enceinte tout de suite, mais même si tu tombais enceinte, finalement, il naîtrait après. Donc, c'est bon, ça marche. Donc, avril 2021, on commence à essayer.
Non. 2019,
pardon. On commence à essayer. Et du coup, fin avril 2021, elle est enceinte.
Fin avril 2019.
2019, je vais y arriver. Hein. Ouais. Ah ouais.
Qu'est-ce qui se passe avec 2021?
Je suis très fatigué en ce moment.
Parce que ton fils est né en mai 2020, c'est ça?
Oui, c'est ça.
J'ai en tête,
je me dis,
il y a un truc qui ne marche pas. Ah ouais, donc elle est tombée enceinte tout de suite.
Donc elle est tombée enceinte tout de suite.
On peut le dire, pour tous les gens qui pensent que vraiment,
ça va mettre du temps.
Voilà, parce que je crois qu'il y a un peu cette reçue de il faut peut-être 6 mois, 1 an pour remettre les choses en place et tout.
Pas forcément.
Tout le temps.
Donc attention parce qu'il faut être prêt.
Exactement. Donc tu t'es senti un peu. Enfin, vous êtes senti
très content. En fait, non, on a été. Non, le sentiment. Alors avant, t'as toujours le petit moment évidemment où tu te dis oula, attends déjà là. Ok. Super quoi. Donc on était plutôt content. Et puis, manque de peau, elle fait une fausse couche. C'était très tôt, au bout de 2 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Et c'est là que, du coup, tu te rends compte que finalement, t'étais prêt. Parce que, du coup, ça te met une claque forte où tu te dis, merde, ok. Bon, déjà, on va passer un peu sur, je pense, le tabou généralisé sur les fausses couches où... Même si je pense que il y a plein de podcasts qui aident, le tien, plein d'autres. Ma femme écoute beaucoup La Matrescence.
Ouais. Clémentine Sarlat.
C'est ça.
Clémentine, si tu nous écoutes, elle ne nous écoute pas.
Donc il y a des choses qui bougent, mais malgré tout, je pense que ça on en parle quand même très peu. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est pas le genre de choses évidemment qu'on partage comme ça de sortie de nulle part, Mais donc nous on n'y avait pas trop pensé, donc quand ça arrive on prend un sacré coup.
C'est normal de pas y penser en même temps, je trouve ça cool de pas y penser.
Oui, c'est sûr.
Mais c'est sûr que quand ça t'arrive tu prends un taquet quoi.
Même si c'était très tôt, on avait fait le test je pense même pas 10 jours avant ou un truc comme ça quoi. Donc ça se passe et puis on se dit tant pis, on va pas reprendre des protections, on va voir ce qui se passe. Et en fait elle est retombée enceinte, donc fin mai 2020, donc courant juillet quoi, un truc comme ça,
courant de l'été.
Très vite elle est retombée enceinte à nouveau et puis cette fois-ci il n'y a pas eu de soucis.
comment s'est passé, tu te souviens de l'annonce de la grossesse toi?
Alors, ce qui est très drôle, c'est que en fait, c'est moi qui lui ai dit, je pense que t'es enceinte.
Attends, je crois que c'est la première. Je réfléchis là, mais je scanne 150 épisodes. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas. Elle a commencé à avoir vachement de petits boutons.
Ok.
Et en fait, on savait que, enfin, on avait arrêté,
ouais.
Qu'il y avait eu, enfin, que ça pouvait arriver, quoi. Et elle a jamais de petits boutons, donc en fait, je me suis dit, ben, bah, ça se trouve, tu vois, c'est une poussée d'hormones. Donc je lui dis, bah, tu vas pas faire un test. Donc je crois qu'elle en a fait un genre le lendemain ou un truc comme ça, le lendemain matin.
Observateur, Clément. Hein.
Il était positif.
Incroyable.
Et pour le deuxième, pas tout à fait pareil, mais voilà, on s'est dit, tiens, faut refaire un test, parce que repareil, quoi, des petits boutons un peu partout, des choses comme ça, donc...
Ok.
Du coup, il n'y a pas vraiment eu d'annonce, mais...
Mec, voilà. Le mec à l'œil. Comment s'est passée cette grossesse pour toi?
Bah moi, très bien, parce que moi, j'ai pas de nausée, donc ça... Ouais.
Non, entre les mecs qui sont là, moi, ça a été, moi!
Non, très bien, bah, enfin...
Non, bah après, ça crée plein d'émotions aussi, tu vois.
Ouais, complètement. Bah, enfin, il y a des trucs qui marquent de toute façon la vie, hein. Enfin, du coup, comme il y avait eu une fausse couche, on a eu une échographie très tôt, tu sais, de datation. Où moi, je pensais qu'on verrait rien. Et en fait, où t'entends le cœur. Et donc là, je pense que ça, là, c'est. Enfin, bon, évidemment, tu pleures comme une madeleine et tout, mais. Là, c'est vraiment une charge émotionnelle particulière, quoi. Ouais. D'entendre, t'entends un cœur battre, quoi. Enfin, il y a rien, c'est un truc qui fait la taille d'une épingle, mais voilà, t'es quand même capable de capter des choses comme ça, quoi.
Ok.
Et puis après, le reste de la grossesse, non, très bien. Enfin, on lisait quelques trucs. J'écoutais pas mal l'histoire de Daron.
Mais parce que vous avez quand même vécu la fin de la grossesse en plein confinement.
Ouais, alors par
c'est
contre,
pas,
ouais,
c'est pas anodin,
ouais.
Ça.
Non, complètement. Donc, la fin de la grossesse était quand même bizarre parce qu'effectivement, du coup, on a passé, je sais plus combien de temps ça a duré, un mois et demi, deux mois.
Deux mois.
Donc, on a quand même passé deux mois ensuite dans 37 mètres carrés, tous les deux, quoi. Mais bon.
Toi, t'étais tranquille.
Ouais, j'étais plutôt peace. Ouais.
Ok.
Mais elle aussi, hein, de toute façon, il n'y avait pas trop de. Il y avait les stress un peu classiques, quoi, où de temps en temps, tu t'assois, puis tu te mets à réfléchir et tu te dis, waouh, on va avoir un petit garçon, parce que du coup, on le savait, on l'a su assez tôt. On va avoir un petit garçon à la maison. Bon, tu te poses plein de questions. Après, moi, je suis plutôt du genre à laisser les choses venir, donc c'est vrai que. J'ai essayé de lire quelques trucs, mais j'ai essayé aussi de me dire, on va s'en sortir, quoi.
C'est pas bizarre de faire venir un être au monde comme ça, dans un monde en pleine pandémie, comme ça? C'est pas un truc que que vous avez projeté?
Pas trop. Okay. Moi, je suis plus un optimiste en me disant que on est peut-être c'est nos enfants qui certainement continueront à essayer d'aider la société comme nous, on peut chacun essayer de l'aider à notre niveau dans le futur, quoi.
Ok.
Voilà. Je suis plutôt dans l'optique de me dire, ça fait une personne pour continuer à aider le monde, quoi.
Ok.
Ouais.
Donc cet accouchement, alors?
Du coup.
Où t'as pas eu besoin de taper qui que ce soit?
Non.
Merci. Merci pour le personnel soignant.
Non,
qui venait de sortir de deux mois de galère.
En vrai, je suis pas du tout un violent, j'aurais tapé personne, mais c'était juste.
Vous l'avez pas là, mais Clément, c'est un grand balèze. c'est pas audio du tout ce que je suis en train de raconter, mais c'est. Quand tu prends une baffe de Clément, tu dois la sentir.
Oh, fort heureusement, je n'en mets jamais. Donc.
J'imagine que t'en mets d'autant moins que t'es un grand balèze.
Non, mais c'était vraiment juste dans ma tête, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on me ferait... Enfin, je comprends pas pourquoi on me ferait sortir.
Ouais.
Bon, je sais ce que c'était, ce que les équipes soignantes ont vécu, c'était très difficile, hein, mais moi, de mon côté, je me disais, mais attends, on passe deux mois ensemble dans la même maison, et le jour de l'accouchement, on va me dire, non, monsieur, vous restez deux heures, mais vous sortez après. Puis c'était pas possible, je me disais c'est pas possible de laisser mon fils tout juste né tout seul avec sa maman, bon bref.
En tout cas, ça c'est un truc qui t'a animé sur la fin de la grossesse,
ouais,
j'imagine.
Ouais, ou vraiment ça c'était, je pense peut-être là, tu vois, tu parlais d'inquiétude, je pense que la seule inquiétude c'était ça, c'était de me dire mais on va pas me laisser assister à l'accouchement, quoi. Voilà. Et puis finalement donc post-confinement, ils ont réautorisé les papas, donc ça c'était un sacré soulagement. Gaspard est quasiment à son terme. Donc nous, comment ça s'est passé? On a eu perte des eaux un matin.
J'adore quand les mecs disent on a eu.
Je dis beaucoup on sur ces trucs-là. Ouais.
Pour moi, il faut dire c'est notre grossesse, quoi, tu vois. Mais après, faut taffer, hein. faut aller faire
c'est
taf.
C'est sûr. Ouais. On avait fait quand même pas mal d'autonomie pour Gaspard. Ça, c'était un truc que j'avais cherché un peu, que j'avais très envie de faire, qui a été très chouette, un joli moment de partage, je pense, tous les trois.
Qu'est-ce que ça t'a amené, toi, en tant que père?
Je pense que ça a amené le contact, ouais. Pas l'impression d'être à côté et spectateur, quoi.
Pour les jeunes futurs pères qui l'ont pas,
c'est des techniques de manipulation. Je suis très 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 cartésien, donc moi j'ai beaucoup de mal avec les trucs très ésotériques où je ne comprends pas. J'ai un côté très scientifique en moi qui me dit si ça se passe d'une façon, c'est qu'il y a une explication, donc j'ai besoin de comprendre. j'ai adoré les séances d'autonomie. Alors je prenais ce qui me plaisait et je laissais un peu tomber, on va dire, les côtés plus ésotériques où je me disais
C'est quoi, c'est quoi les côtés ésotériques de t'as pas expliqué, mais en gros l'autonomie, c'est vraiment de la manipulation du ventre, en fait, tu vois, tu touches, en fait, c'est
tu touches,
c'est,
et tu essayes d'avoir des contacts, on va dire, avec ventre le fœtus avec le bébé en touchant, parce que je pense que philosophiquement derrière il y a des choses plus sur l'énergie, sur des choses comme ça où ça me parle moins, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des sensations, je pense que ça se voyait bien qu'il y avait des réactions.
Ouais.
J'ai pas d'explication à ça, mais ça c'était.
Après, on ne connaît pas tout scientifiquement, Clément.
Non, c'est sûr. Ouais, complètement. Ouais.
Tu vois, il y a encore quelques siècles, on croyait que la Terre était plate, hein. Donc.
Ouais, mais moi j'ai un problème avec ça. J'ai besoin de comprendre.
1 plus 1 égale 2, ok.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Et du coup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, oui, c'était les techniques où, tu mets la main sur le ventre, et puis il y a le bébé qui vient se loger en dessous, et tu le sens se loger en dessous, puis tu mets la main de l'autre côté, et hop, il se décale. Tu parles, même, parce qu'on avait fait, du coup, des exercices où la sage-femme autonome, elle mettait sa main d'un côté, donc, Gaspard se mettait contre sa main, et après, elle me faisait mettre de l'autre côté de la pièce, et elle me faisait parler, dire tout et n'importe quoi.
Okay.
Et en fait, elle sentait le bébé partir.
Incroyable.
C'est-à-dire qu'elle sentait vraiment plutôt le bébé se mettre du côté de la voix du papa, quoi. Voilà.
Et ça, comment on l'explique, hein, Clément?
Les sons, oui, ça passe dans le fœtus. j'ai une voix quand même assez, assez portante en général.
C'est papa qui te parle.
Et c'est vrai que pour les deux grossesses, Katia l'a beaucoup ressenti. En général, quand je parle assez fort. Et du coup, souvent, quand je parle de la maison, et quand on travaille de la maison ensemble, c'était le festival dans le ventre.
La voix de ton père.
Donc ça, je pense qu'ils m'ont bien reconnu tout de suite. Ouais. et donc sur la journée d'accouchement, du coup, perte des eaux le matin. Donc on va à la clinique.
Ouais.
On était dans le 12e.
Okay.
Les bluets.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Et puis, le travail se met très lentement en place. Je pense qu'il se met en place vers la fin de la journée. Donc, elle commence à avoir les contractions qui montent, qui montent assez fort ensuite pendant la nuit. Donc ma compagne voulait pas trop... elle voulait essayer d'aller le plus loin possible sans péridurale.
Ok.
La péridurale a été... tenter d'être posé vers la fin, mais en fait, c'était un peu tard. Alors là, du coup, on a passé une nuit complète, finalement, en mode accouchement, quoi.
Okay.
Donc, c'est une nuit un peu bizarre parce que elle était complètement crevée. Elle a essayé un peu d'aller dans la baignoire, des choses comme ça. Et puis, toi, t'essayes de faire ce que tu peux, de masser, de parler, d'être avec. Alors, c'est drôle.
En gros,
du coup,
t'es en train de dire que tu servais à rien, quoi.
Oui, tu sers un peu à rien. Voilà. Ouais. Si ce n'est à soulager le plus possible, en tout cas, sur des mouvements, des choses comme ça.
T'es présent, mais...
Voilà.
C'est un peu le moment où, en tant que daron, je trouve... t'es là...
Ouais, c'est ça.
Je suis pas là.
Du coup, même, il y avait des moments assez drôles, parce que du coup, elle a été pas mal dans la baignoire pour essayer de supporter les contractions sans péridurale. Et en fait, elle s'endormait entre les contractions.
Okay.
Donc, elle était dans la baignoire et ça faisait genre... Et moi, j'étais derrière sur le siège, bien, bien, bien.
C'était le moment de piquer un petit roupillon aussi.
Ouais, bah, j'ai pas trop réussi à dormir, moi, mais... Voilà. Et puis du coup, ben, la fin du travail arrive, la poussée commence, ça a été assez long. Gaspard a eu pas mal de mal à sortir. Tu parlais de Macareux tout à l'heure, mais Gaspard est né à 4,160 kg.
Oh!
C'est-à-dire mon poids exact à la naissance.
Un bien beau bébé, donc.
Donc un beau bébé. Donc, tu vois ma carrure, ma femme fait 1m55.
Ah oui, ok.
Donc ça a été un peu dur à sortir pour Gaspard. ouais, il y a eu, je pense qu'il y a eu quasiment 40 minutes de poussée.
Mais tu fais deux fois ta femme, en fait, en termes de volume, clairement.
Un peu, ouais, ouais, ouais. En termes de mètres carrés, je pense que c'est ça, ouais. Et du coup, ben, alors il y a eu les, non pas les forceps, la ventouse,
ouais.
pour aider Gaspard à sortir, une petite épisio, etc.
Ouais.
Et du coup, assez rapidement,
ne dis jamais une petite épisio.
Non,
d'accord.
C'est vrai.
J'ai une daronne là dans mon canapé à ta place qui venait d'avoir une épisio il y a 2 mois et qui disait, tu vois là, je suis en train de te parler, j'ai mal à la chatte. Et moi j'étais là, oui, je comprends tellement. Je mettrai un petit lien, c'est Émilie, dans l'histoire de notre tout premier épisode. J'étais là, oh non. Il n'y a pas de petite épisio pour moi, c'est juste on est en train de te couper la chatte. Pourquoi faire ça, tu vois, c'est...
Surtout qu'elle avait eu une pause de péridurale, mais qui n'a pas du tout fonctionné.
Oh, oui, donc elle l'a senti.
Tout.
Bravo.
Et surtout ce qui suit, parce que du coup, pour Gaspard, il y a eu une hémorragie de la délivrance.
Ah ouais.
Alors c'était un moment un peu bizarre parce que du coup Gaspard était sorti puis on attendait sortie du placenta et moi j'ai vu un splash quoi, enfin genre tu peux pas trop te tromper et surtout ce qui peut pas trop te tromper c'est que c'était une interne qui était là à ce moment-là qui a regardé l'infirmière et qui a dit appelle tout le monde. Donc arrive évidemment 10-15 personnes dans la salle d'accouchement. Pardon.
Tu peux y aller, hein. T'as le droit ici, c'est cadeau, c'est un moment où tu peux pleurer, même si t'es un grand balèze, c'est cadeau, c'est offert. Et regarde, j'ai même une petite boîte de mouchoir.
J'en ai dans ma poche aussi. Donc tout le monde arrive dans la salle et donc on m'a fait sortir tout de suite avec, avec Gaspard. Je pense qu'il s'est passé... je sais pas, une petite demi-heure. Enfin, c'était certainement pas très très long, hein, mais ouais, il a dû se passer une petite demi-heure.
Ouais.
Où t'es dans une salle tout seul avec ton fils. Donc en pot à pot quand même. Mais où, bah, toi, tu te dis, mais.
Oui. Prends le temps, hein. T'es pas obligé de continuer. On voit vraiment
c'est
le gars.
Ça revient encore comme ça.
Ah bah. Puis à mon avis, t'en as encore pour un bail. C'était il n'y a pas longtemps en vrai. Hein.
Non, c'est sûr, ouais. Enfin, il y a vraiment des moments où tu te dis, en fait, si ma femme meurt, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, tu fais des trucs débiles, mais tu vois, tu te dis, moi, où est-ce que je vais après, qu'est-ce que enfin, je vais pas rester tout seul à Paris dans cet appartement.
T'étais déjà...
Ah, j'étais dans le truc...
Pendant la demi-heure, là.
Ouais.
Genre, ah ouais, tu l'as vu
peut-être
mourir.
Peut-être que du coup, je vais partir chez mes parents pour au moins avoir de l'aide au début. Enfin, vraiment des trucs. Je sais pas, bon.
Ah, tu l'as vu. Tu l'as vu mourir.
Vraiment, mon cerveau est parti en live tout de suite, quoi. Ouais.
Ah ouais. Tu disais que t'étais un grand optimiste, là, pour le coup. En mode survie, le gars, il est là. Très bien. Bah, t'as mis en place
coup,
le mode survie, quoi.
Oui, il faut réagir, quoi. Ouais.
Mais t'avais pas d'infos.
Et puis du coup une demi-heure plus tard quelqu'un vient me voir en me disant votre femme a fait une hémorragie. Alors j'ai pas du tout pleuré pendant cette demi-heure.
Ah ouais, t'étais...
Et genre j'ai fondu en larmes à ce moment-là où elle m'a dit votre femme a fait une hémorragie. Et je pense que elle m'a vu me décomposer d'un coup et donc elle m'a rassuré tout de suite en me disant mais tout va bien machin mais ouais voilà. Donc
OK.
Ce petit moment pas très drôle à
très drôle.
À vivre, surtout pour elle. Alors, en fait, elle, du coup, elle s'est pas trop rendu compte parce que je pense qu'elle partait doucement un peu dans les vapes et des choses comme ça. Hein. Elle a quand même, donc, elle a perdu 1,3 litre ou 1,4 litre,
ouais.
Comme ça, d'un coup. Ce qui a pas été très drôle du coup pour elle, c'est qu'en fait elle a eu les trucs des révisions utérines avec on est resté 6 heures du coup, 8 heures dans la salle d'accouchement ensuite. Avec quelqu'un qui venait appuyer sur son ventre toutes les demi-heures pour vérifier qu'il y avait pas des saignements qui recommençaient. Ouais. Du coup, elle a été extrêmement fatiguée pendant un bon moment.
T'étais soulagé de l'avoir, d'avoir oui. vivant, j'imagine, à un moment donné.
Oui. Après, émotionnellement, du coup, dès que j'appelais quelqu'un pour annoncer la naissance et que je parlais de ça, je refondais en larmes.
On est, tu vois, c'est intéressant, en fait, parce que... Tranquille, hein.
Ouais.
C'est trop intéressant parce que je trouve que t'as beau te préparer, faire de l'autonomie, etc. Ça, franchement, vivre ça, on n'est pas prêt, quoi, tu vois, émotionnellement.
Non, complètement. Complètement. En fait, on se prépare pendant la grossesse à se dire qu'est-ce qui se passe s'il y a un truc qui arrive au bébé.
Ouais.
Parce que c'est les trucs un peu classiques que t'entends, s'il y a une césarienne, si le bébé est en détresse, si... qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire. Donc on avait déjà dit de toute façon qu'on voulait que toujours quelqu'un avec lui, donc s'il y avait une césarienne d'urgence, que je reste avec lui le plus possible, etc. Ouais. Mais on se prépare pas du tout à se dire...
Prends le temps, hein. T'es pas obligé de continuer à parler. Je t'ai mis... Tu veux un verre d'eau ? Tiens, non, en plus t'as de l'eau.
On se prépare pas du tout à se dire, ça peut arriver à la maman, quoi.
Ouais.
Il peut se passer quelque chose de grave aussi pour elle, quoi.
T'as eu peur ?
Bah, ça, c'est clair, ouais.
C'est quand même incroyable que ton cerveau soit mis tout de suite en mode « Ok, elle va mourir, qu'est-ce qui va se... Faut que je trouve de l'aide, etc. etc. »
C'était pas « Elle va mourir », mais c'était «
Oui.
Si...
Enfin, » Si elle est alitée, ouais. Si elle est à l'hosto...
S'il y a un truc
si
qui va pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que je peux gérer ça ensuite, quoi ? Donc du coup, ben, les suites d'accouchement ont été un peu particulières pour Gaspard. Déjà parce qu'on est resté, du coup assez longtemps à l'hôpital. On est resté 5 jours, ouais. 5 jours, et puis ben, on était dans un hôpital post-confinement aussi, je pense. Ce qui n'a pas aidé. Gaspard est né un vendredi matin, donc on a passé tout le week-end, plus lundi, mardi. L'interaction avec les équipes a été assez bof, on va dire.
Ouais.
Avec des infirmières qui n'étaient pas toujours très compréhensives, à la limite, je pense, certaines fois, tu vois, de questions de maltraitance. Parce que je pense que tout le monde était un peu speed, il y a eu beaucoup d'accouchements à ce moment-là, donc les équipes étaient très chargées. C'était, tu vois, 2 semaines après le confinement, où je pense que ça a été très dur pour tout le monde, pour les équipes
crevé,
médicales.
C'est évident.
Mais avec des fois ou des choses où tu te dis quand même, c'est vrai. Enfin, rétrospectivement en plus, tu te dis c'était quand même vraiment limite, quoi. Une infirmière qui... donc Katia a eu du coup deux pertes de fer pour essayer de compenser. Ouais. Alors c'était limite transfusion, donc ils ont fait plutôt des perfs de fer. Donc elle a été perfusée en fait pendant tous les 5 jours d'hôpital. Donc allaiter un bébé avec une perfusion quand t'as perdu 1,5 litre de sang 2 jours avant, c'est compliqué.
elle voulait à tout prix continuer à allaiter.
Ouais,
et...
c'était une volonté d'allaiter, oui.
Ouais.
Et en fait, on a eu par exemple à un moment donné une auxiliaire qui est venue au bout de 3 jours lui dire « Mais madame, vous savez toujours pas le mettre au sein ?» Ou des trucs comme ça, quoi.
Ouais.
Donc, bon, les 5 jours étaient pas fous.
La baffe était pas loin, là.
les 5 jours étaient pas. Alors,
ouais.
Ils étaient incroyables parce qu'on découvrait Gaspard. Et ça, je pense que c'était un moment vraiment hors du temps. Qu'on a vécu en plus, du coup, à deux. Enfin, vraiment côte à côte, quoi. Moi, je suis pas du tout sorti. Enfin, ça posait des questions logistiques de bouffe et de choses comme ça qui étaient pas évidentes, mais en fait, on s'en foutait. Au moins, on était tous les deux dans la chambre pendant toute la durée, et ça, c'était super, quoi. En plus, Gaspard, était un très gros bébé. Donc, comme d'habitude, les très gros bébés, ils perdent souvent beaucoup de poids au début. Ils mettent souvent un peu plus de temps à reprendre. Donc, il y avait aussi au démarrage une inquiétude là-dessus où les équipes n'étaient pas du tout rassurante, en fait.
Ouais.
Donc, ça fait beaucoup de choses à te prendre.
C'est peut-être pour ça aussi qu'elle mettait un peu la pression à ta chérie pour le sein, non ?
Certainement, ouais, ouais, ouais. Jusqu'à un moment donné où elle nous dit, bon, bah, on va lui donner des compléments. Donc, nous, on a dit, bah, en fait, non. Mm. Donc, on va trouver une autre solution, mais on lui donnera pas de compléments. Donc, on a un peu, c'est une dernière nuit un peu de l'enfer où, pendant qu'il tétait, elle tirait son autre sein. Et une heure plus tard, ou une heure et demie plus tard, parce que Caspar se réveillait beaucoup. Une heure et demie plus tard, je lui donnais le sein qu'elle avait tiré, elle tirait l'autre sein. Et on recommençait après le cycle comme ça. On a fait ça toute la nuit.
Les 3-8, quoi.
Ouais, pour que Gaspard juste puisse reprendre les 10 grammes et que tout le monde nous dise « Ah, ça y est, il a pris du poids. Ah, bah c'est bon, vous pouvez y aller.
Mmh. » Ouais.
Parce qu'on n'avait qu'une envie à ce moment-là, c'était vraiment de rentrer chez nous, quoi.
Ok.
Et du coup, ben, on est rentré chez nous après ça, quoi. Voilà.
C'est encore très vif chez toi, là, l'émotion de ce moment.
Ah ouais.
Tu m'étonnes. C'est la première fois que tu en reparles ?
Non, j'en ai reparlé plusieurs fois, mais ça me fait ça à chaque fois, je pense. Je pense que si on recommence à en parler, ça va recommencer à nouveau.
On n'est pas prêt, comme tu disais.
Ouais, vraiment, surtout avec l'état de la vaccine actuelle, on est beaucoup trop loin de s'imaginer ça. Quoi.
Ouais. Ouais,
on n'y pense vraiment jamais. Ouais.
Moi, c'est un truc que je découvre aussi avec Histoire de Daronne, parce que j'ai fait beaucoup parler de père, mais si tu veux, forcément, les mecs qui sont là, ils racontent de leur point de vue. Mais c'est vraiment le trauma que c'est d'accoucher pour le corps des femmes, quoi. Tu vois, même pour les accouchements qui se passent bien, quoi. Tu vois, c'est
complètement, ouais.
Je crois qu'on vraiment, on le dit pas assez, quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
Et peut-être.
Pareil, en plus, en rétrospective, ce qui est arrivé à ma compagne, je veux dire, c'est un truc où on sait en plus que, ben, je pense que 100 ans en arrière, ça faisait partie des mamans qui mouraient pendant l'accouchement, quoi. Voilà.
Clairement.
Ça, je pense que ça aussi, ça. C'est dur à encaisser un peu, quoi. De se dire, putain, en fait, ça a pu passer pas loin du truc, quoi. Et puis tu fais pas un enfant avec ta compagne pour te dire je vais l'élever tout seul, quoi.
Clairement. Donc, T'as écouté l'épisode avec Amaury ?
Je pense que oui.
Amaury qui a dont la femme a fait une rupture d'anévrisme à la piscine à 7 mois. Donc ils ont sauvé la petite. Et lui, en même temps qu'il était en train d'accueillir sa fille, il devait décider s'il débranchait sa femme ou pas, quoi. Un épisode plein de sagesse avec Amaury. Incroyable.
Ouais. Bon, nous, heureusement, c'est pas arrivé à ça, mais... Ouais.
Ok.
Voilà. Et puis, ben, après, ben, on rentre chez nous avec... avec ce petit bout, enfin petit bout du coup, pas petit bout, mais avec ce bon gros bébé. ouais, alors du coup, nous là-dessus, par contre, on avait quand même eu du coup la chance finalement d'avoir un bébé très gros qui fait en fait du coup, qui fait du coup très fini. Enfin, je sais pas comment dire, mais justement, quand tu lis des choses pendant la grossesse, ben, tu vois des bébés qui naissent à un mois et demi, à deux mois avant terme, des choses comme ça, et ça peut être un peu impressionnant, quoi. Et nous, en fait, genre à la maternité, bon, déjà, évidemment, on avait pris une tenue naissance qu'on n'avait jamais utilisée. Et on a sorti le body un mois quand la sage-femme nous l'a demandé. Et elle lui a mis en faisant « en tirant. Et là, on s'est dit « Ah ouais, ok. »
Finalement, il est passé aux deux ans direct.
Il est pas si petit que ça, finalement, ouais.
Ok. Comment ça se passe, ta vie de papa ?
Maintenant ou à ce moment-là ?
Bah, maintenant, tu vois.
Bah, écoute, je pense que c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de fatigue.
Ouais.
Je pense que il faut apprendre à gérer plein de choses que t'avais pas anticipé, tu vois, à gérer ton énervement face à des situations avec les enfants qui sont parfois compliquées à gérer.
Comme quoi, par exemple ?
Alors nous, on a eu beaucoup de manque de sommeil parce que Gaspard a été plus que très long à faire ses nuits. Il a vraiment commencé à faire des nuits complètes à partir de, on va dire, entre 2 ans et 2 ans et demi, quoi.
Oh ouais.
Donc, ça n'a pas toujours été au même niveau, mais je pense que les 6 premiers mois avec Gaspard ont été cataclysmiques au niveau du sommeil.
Et malgré ça, vous avez... Putain, c'est fou. Tu vois, moi, je me dis vraiment, les parents sont incroyables, quoi, tu vois. Tu dors pas pendant 2 ans.
Ils sont incroyables, mais ils sont pas fous, parce qu'en fait, on a commencé à parler du deuxième une fois que Gaspard a commencé à dormir, a commencé à esquisser des nuits complètes et des choses comme ça. Donc, au moment où tu commences à rattraper, du coup, un peu de fatigue.
Ouais.
Donc, Gaspard a eu beaucoup de mal à dormir, il avait du mal à s'endormir tout seul, il se réveillait plein de fois la nuit. Alors, il a été allaité quand même très longtemps aussi, donc souvent les bébés allaités quand même ont plus de mal aussi à pas se réveiller la nuit, etc. Et puis, ouais, donc ça, le manque de fatigue, je pense que la fatigue, ça, on avait beau se dire qu'on allait être fatigué, je pense qu'on n'est jamais prêt pour ce qui nous arrive dans la tronche.
Ça, je crois que ça fait aussi partie des trucs, tu vois, qu'on raconte pas assez. Mais de toute façon, je crois qu'on peut même pas le savoir.
On peut même pas comprendre, en fait.
Tu peux te dire, ok, ouais,
je vais être fatigué.
Voilà.
Mais en fait, quand ça fait 15 jours que tu te réveilles toutes les heures et demie la nuit, que tu marches pendant une heure avec ton bébé dans les bras pour essayer de l'endormir, que quand tu le poses, il se réveille 20 minutes plus tard, c'est-à-dire au moment où toi, t'as recommencé à fermer les yeux.
Oh là là.
En fait, tu n'es pas prêt pour ça et du coup, ben, c'est des moments où en plus, où, du coup, ça amène des tensions dans le couple parce qu'en fait, tu es fatigué, donc tu réagis pour tout et rien, pour des bêtises.
Et vous avez conscience à ce moment-là de, ok, on est crevé, peut-être qu'il faut juste qu'on redescende et qu'on se foute un peu la paix.
Pas trop.
Ça fait vraiment
c'est
partie
après,
des
je pense.
Beaux conseils, tu vois, qu'on peut filer aux jeunes parents. C'est, putain, ayez juste conscience que vous êtes crevé et que juste vous, de cette là, vous êtes à fleur de peau, quoi.
C'est ça. En fait, il vaut mieux du coup à ce moment-là se dire, ben, je laisse tomber plutôt que je réagis. Alors même si c'est très compliqué. Hein, Donc c'est plutôt en rétrospective où passer le moment vraiment très difficile où il se réveillait énormément la nuit, où il a commencé à se réveiller plutôt 2 fois ou 3 fois la nuit.
Que 3 fois.
Bon, c'est plus gérable en tout cas. Ouais. Du coup, tu fais des phases de 2 heures ou 3 heures de sommeil. Donc
j'ai une amie de Norcos qui c'était génial. Elle a dit. En fait, elle est actrice, elle est comédienne, donc elle a, tu vois, ça fait partie des métiers où parfois tu peux bosser beaucoup pendant une période de temps et donc être très fatigué. En fait, elle disait, je croyais que je savais ce que c'était qu'être fatigué.
Ouais.
Pas du tout.
Non, pas trop. Non.
C'est un autre niveau, les gars.
Ouais, en fait, ce qui est très dur surtout, c'est les réveils très réguliers. Parce que nous, on a toujours beaucoup bossé avec ma compagne. Enfin, bon, j'ai toujours beaucoup travaillé, j'ai toujours... était très investi, j'ai toujours eu besoin d'assez peu de sommeil globalement.
Mais tu fais des nuits complètes.
Mais je faisais dormir 6 heures ou 7 heures d'un coup. Et en fait, quand tu dors 4 heures dans la nuit, mais qu'en plus t'es réveillé toutes les 40 minutes, ben, c'est pas tout à fait pareil quand même.
Waouh!
Donc, passer ces 6 mois très compliqués, après ça s'arrange un peu mieux. Mais bon, globalement, ça a été quand même assez difficile et. Après, je pense que chaque enfant aussi a ses façons de faire là-dessus. Et en tout cas, Gaspard, ça a été compliqué de mettre en place, tu vois, un coucher où on reste pas à côté de lui jusqu'à qu'il s'endorme ou des choses comme ça, quoi. Voilà.
Donc, un début de grossesse prenant.
Voilà, un début de parentalité.
De parentalité,
ouais,
pardon.
Ouais, complètement. Mais bon, c'est... Après, à côté de ça, c'est... Enfin... Moi, je me rappelle surtout des premières fois, tu vois. Genre, tu vois, les premières fois où il se met à genoux, les premières fois où il commence à se mettre debout, il goûte ses premières purées. Bon, je pense qu'on a de la chance en plus aujourd'hui d'avoir des technologies qui nous permettent de se rappeler de ces souvenirs-là, de les garder, de les envoyer aussi aux familles. Parce que ce qu'il faut quand même aussi rappeler, c'est qu'à ce moment-là, on est quand même encore en plein Covid. Hein.
Ah oui.
Donc, en fait, très peu de monde peuvent venir. Donc, on fait venir les gens au compte-gouttes. Bon, pas au début, de toute façon, parce qu'en plus, après l'accouchement un peu compliqué, je pense que tout le monde avait besoin de repos.
Ouais. Puis en plus, j'ai trouvé que c'était aussi une bonne façon d'expérimenter pour les jeunes parents de « Ok, on est seul, quoi, tu vois.
Ouais. »
Et c'est bien aussi de pas forcément avoir toute la famille qui débarque, quoi, à ce moment-là.
Complètement. Je pense qu'en plus, on a... on n'a pas eu du coup, tu vois, forcément on a eu personne dans la maternité, des choses comme ça, alors que ça c'est quand même, alors ça se fait du coup beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est des histoires que t'entends de, ouais, de d'avant avec les défilés à la maternité et tout, et où en fait pour tout le monde c'était l'horreur quoi. Donc nous on sait, on ne l'a pas vécu, donc heureusement. mais du coup on a eu tout le monde qui venait nous voir avec les masques, avec la désinfection des mains avant, avec enfin
tous les trucs qu'on a eu pendant le Covid quoi. Putain. Voilà.
Et puis même nous du coup une vie professionnelle aussi un peu bouleversée, du coup moi à ce moment-là j'ai des clients qui me disent on passera pas commande tout de suite pour les prestations, donc il y a un peu d'angoisse associée à ça aussi, mais bon finalement septembre octobre 2020 finalement les choses professionnelles se remettent un peu en place aussi. Alors j'ai eu aussi la chance de pouvoir me dégager quand même quasiment un mois complet à la maison sans trop travailler, enfin vraiment genre
tu t'es fait un congé paternité mais ouais, à ta sauce quoi.
Ouais, genre une heure par jour pour regarder des mails, répondre à des urgences, gérer un peu le stagiaire et des choses comme ça, mais très peu de choses pendant un mois.
C'est ensuite les joies de l'entrepreneuriat.
Ouais. j'ai essayé de bloquer ensuite mes déplacements pour quasiment pas me déplacer au démarrage. Donc en fait du coup quand je me déplace pas je travaille à la maison.
Ouais.
Donc travailler à la maison avec un bébé d'un mois et demi, en fait bon, déjà tu peux sniffer son crâne tout le temps et puis tu peux en plus relayer la maman du coup si elle veut aller se laver, si elle veut dormir un peu, si elle veut, tu peux l'avoir à côté, tu peux le gérer pendant ce temps-là quoi. Donc là-dessus, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir
profiter de sniffer le crâne de vos enfants, parce qu'après à l'adolescence, ils veulent plus se laisser faire. Nul. Faut kiffer.
Je crois que j'ai un copain qui m'avait dit que il y a des chercheurs qui avaient fait des études sur ces molécules qui sont dégagées par les nourrissons.
J'allais te demander justement, en tant que chimiste.
Ce que c'est. Alors, j'ai pas trop regardé, mais moi, c'est un copain qui m'avait dit ça, que du coup, il y a des chercheurs qui envisageaient d'utiliser ça comme antidépresseur. Parce qu'en fait, c'est des molécules. Alors, je crois que la source, on va dire, animale de ces trucs-là, c'était plutôt en genre, je vais t'envoyer une petite molécule chimique qui va créer un bon sentiment d'amour et, et d'envie de garder le bébé, pour pas que tu m'abandonnes dans la nature.
Incroyable.
A priori, ce serait des choses comme ça. Bah, ce qui est du coup...
ce qui marcherait.
Explique... Bah ouais, complètement. Mm. Ouais. Parce que c'est sûr que dans la nature, un bébé...
Bah oui.
Bon. Ça pleure, ça crie. Je veux dire, pour les animaux sauvages, je pense que c'est compliqué à gérer, quoi. Mm. Donc, il y a certainement des choses là-dedans, quoi. C'est un peu décousu, je sais plus.
Non, mais t'inquiète. En fait, je voulais te demander un petit peu... Ouais, votre envie de faire un petit deuxième, quoi, tu vois, en passant.
Ouais, je pense qu'on était, de toute façon, quand on avait parlé enfant, on était tous les deux pas trop dans l'optique de faire un enfant unique. Bon, en plus, moi, je viens d'une famille nombreuse. Alors, même si j'avais pas du tout envie d'avoir 5 enfants, et elles non plus, d'ailleurs. mais quand même, j'ai toujours des très bonnes relations avec mes frères, elles aussi, mes frères et sœurs, d'ailleurs, elles aussi. Et on avait envie de pouvoir.
T'avais pas cette peur là, vu l'hémorragie qu'elle a faite, elle non plus.
Si, complètement.
Même joueur joue encore, quoi.
Ouais, complètement. Et d'ailleurs, du coup, dans la deuxième grossesse, je pense que l'inquiétude c'était de se dire qu'est-ce qui va passer le jour de l'accouchement. Parce que du coup, nous maintenant, on sait, on sait qu'il peut se passer des trucs pas drôles pour bébé, mais il peut aussi se passer des trucs pas drôles pour maman, quoi. Donc, quand on met en route le deuxième, donc qui s'appelle Léon, comme pour la première grossesse, je pense qu'un mois et demi après, c'était bon.
Perdez pas de temps.
Donc à ce moment-là, alors je crois que cette fois-ci, c'est elle qui me dit, tiens, je me demande si je suis pas déjà enceinte. Mmh. Et donc, elle était déjà effectivement enceinte à ce moment-là. Alors, manque de peau, elle a découvert qu'elle était enceinte. On était en vacances avec ma famille à ce moment-là.
Ok.
Donc, en fait, cachée pendant une semaine. Mmh. Alors, on n'avait pas trop... Alors, pour... pour les gens qui sont pas encore parents, en général, pendant les 3 mois, on essaie de...
Ouais.
Faire attention de pas trop le dire, parce que sinon...
D'autres politiques, maintenant, il y a des politiques qui disent, on le dit tout de suite, comme ça, si jamais il y a une couille, justement, en fait, les gens sont là tout de suite, quoi.
Carrément. Et en fait, pour la du coup, pour la fausse couche, on l'avait dit à quelques-uns de nos copains très proches.
Ouais.
Et en fait, on s'est assez félicité de l'avoir dit à nos copains très proches. Parce que justement, on a pu leur en parler. Et, voilà,
vous aviez
on n'était pas tout seul là-dessus, quoi. Et du coup, quand c'était la grossesse de Gaspard, on leur a dit aussi tout de suite. Et du coup, là, en fait, on l'a dit tout de suite à notre famille. Par contre, on s'est vachement posé les questions pour Gaspard. Parce que Katia avait lu pas mal de choses disant que des fois ça perturbe un peu les premiers si on leur dit qu'ils vont être grands frères et que finalement il y a une fausse couche. Enfin, voilà, je dirais à deux ans et demi, c'est peut-être un peu chaud à comprendre.
C'est un peu tôt.
Donc on lui a pas dit officiellement comme ça. Et en fait, quand on est donc Katia est tombée enceinte à nouveau quasiment en juillet, quelque chose comme ça. Donc Gaspard est rentré à la crèche à Bordeaux en septembre suivant. Et à la crèche, ils nous disent il est bizarre, Gaspard, cette rentrée-là. Bon, il y a eu les grandes vacances, c'est sûr, mais il n'est pas comme d'habitude, quoi. Bon. Et donc, nous, on ne comprenait pas trop. Il fait pas mal le bébé, il refait des trucs qu'il faisait plus trop, machin. Et puis les 3 mois passent, et donc nous on avait acheté des petits livres, on lui explique à ce moment-là, on essaie de lui expliquer en tout cas sur comment on peut lui expliquer, ouais. Même si bon, à ce moment-là, tu sais jamais trop, en plus à 2 ans et demi, tu vois ce qu'ils vont capter du truc. Et je pense que quasiment du jour au lendemain, la crèche nous dit « Ah bah, tiens, on a récupéré notre Gaspard habituel.
»
Et du coup, on leur a annoncé à ce moment-là, et en fait, je pense que ce qui a dû se passer, c'est on n'a pas essayé de se cacher quand on en parlait tous les deux. Et donc, certainement, il a dû capter des bribes de conversation, des trucs, et faire le lien avec des choses qu'il avait dû lire à l'école, à la crèche, ou des choses comme ça.
Ok.
Puisqu'effectivement, quand on a fait l'annonce officielle à Gaspard, ensuite, lui, il a vachement changé d'attitude, quoi. Et...
Oui, bah, 2 ans et demi,
tu captes, hein. Quand même des choses.
Sauf si vous parlez en anglais.
Ce qu'on fait d'ailleurs assez souvent.
Oui, bien sûr.
je sais pas, pour ça, on n'a pas eu la présence d'esprit.
Ou alors voilà. D'appeler les trucs. Tu veux un B-O-N-B-O-N ?
C'est ça.
Jusqu'au moment où ils comprennent que B-O-N-B-O-N,
où ils commencent à apprendre les lettres.
La merde.
Donc la deuxième grossesse se passe assez bien, un peu comme pour celle de Gaspard. Bon, pas mal de nausées, même je crois beaucoup plus que pour la première. Pas mal de nausées pendant quelques mois, mais après ça s'est passé relativement bien. Alors je pense que donc du coup on avait, on va dire, 2 inquiétudes pendant cette grossesse. La première, c'est comment va se dérouler l'accouchement, et la deuxième, c'est comment va se passer l'interaction avec le premier, parce que t'entends un peu plein de choses différentes. T'as des premiers qui réagissent très bien, d'autres pas du tout, d'autres
qui veulent tuer leur petit frère.
Ouais, non mais je veux dire, il y a plein de cas de figure. Émotionnellement, pour eux à gérer, c'est déjà compliqué pour nous, donc pour eux à gérer, évidemment, m'étonnes. C'est compliqué aussi. Hein.
Comment ça ? Il faut que je partage désormais. N'importe quoi.
Alors du coup, pour les 2 inquiétudes qu'on avait, la première a été adressée parce qu'évidemment, on en a parlé tout de suite. Cette fois-ci, on avait déménagé à Bordeaux.
Ouais.
On n'avait pas la sage-femme qu'on avait eue, on n'avait pas, donc il a fallu recréer rapidement un peu un petit écosystème médical, on va dire. Et puis en parler tout de suite, quoi. Raconter ce qui s'était passé à la première grossesse et puis pouvoir partager un peu les inquiétudes. Donc la sage-femme nous a dit assez rapidement qu'elle pensait que c'était une bonne idée qu'on puisse aller voir quand même une gynéco pour avoir un suivi au moins par l'une des deux et éventuellement par les deux. Donc on a fait un peu par les deux du coup. On a eu une super gynéco qu'on a trouvé, enfin avec laquelle on a eu vraiment une très très bonne interaction, qui passait du temps à essayer de nous questionner, à essayer de même me questionner aussi, hein. Enfin, je veux dire, on faisait les rendez-vous, j'ai toujours essayé d'être assez suivi sur les rendez-vous médicaux, parce que déjà, je trouve ça super, enfin moi genre, allez-y, montrez-moi le bébé à l'intérieur, quoi. Et puis parce que c'est normal de, enfin je trouve, enfin on est dans, dedans tous les deux, donc ça me paraissait évident d'être là à tous les rendez-vous, etc. Et c'est vrai que la gynéco était chouette avec ça, enfin de vraiment m'impliquer dedans aussi, de me poser des questions, de pas juste que je sois là en pot de fleurs, quoi.
Ouais. Voilà.
Et puis pour la deuxième partie, on aime beaucoup lire tous les deux avec ma compagne. On a essayé de vachement inculquer ça à nos... Alors, Léon, bon, à 6 mois, c'est encore un peu conceptuel, mais en tout cas, à Gaspard, on lui a essayé de vachement le faire nager là-dedans. Et pour l'instant, on a plutôt bien réussi. Donc, en fait, ce qu'on a essayé d'adopter pour Gaspard, c'est d'essayer de le préparer en lisant plein de choses.
Okay.
Donc, on a acheté, je sais pas, 15 livres différents, certainement, sur le même sujet. On les a lus avec lui plein de fois, en essayant d'expliquer, de raconter, de se projeter un peu avec lui, etc. Quoi, voilà. Pour essayer de le préparer lui aussi le mieux possible à l'arrivée du deuxième, quoi. Je pense qu'après, à la fin de la grossesse, il y avait une petite inquiétude sur les questions de logistique. Qu'on avait moins réfléchi au débarrage, évidemment pour un peu en premier tu te poses pas du tout ces questions, mais pour le deuxième qu'est-ce que je fais du premier, en plus on avait déménagé, donc alors ma belle famille est en région parisienne, donc à Paris c'était facile, à Bordeaux ça l'est beaucoup moins. Donc il y avait pas mal d'inquiétudes de qu'est-ce qui se passe si un mois avant on a un déclenchement et il faut y aller, quoi.
Vous n'aviez pas un voisin ou quelqu'un autour que vous pouviez appeler en pleine nuit éventuellement?
Du coup, on a commencé à faire ça. Alors pas un voisin, mais j'ai un copain qui faisait sa thèse en même temps à Bordeaux, donc on lui a fait voir Gaspard plusieurs fois, pour que Gaspard puisse le voir aussi, soit pas surpris, genre, tiens, qui es-tu dans ma maison sans papa et maman? et puis après, on a fait venir mes beaux-parents. Alors, du coup, initialement... Alors, attends, je reprends les trucs dans l'ordre, du coup. Parce que comme Gaspard était un très gros bébé et qu'il y avait eu une hémorragie de la délivrance et que c'était certainement lié, pour la gynéco, elle avait dit, en gros, ce qui a dû se passer, c'est Gaspard a été très dur à faire sortir. Donc, votre utérus était fatigué. C'est un muscle, hein, donc il était juste épuisé. Et en fait, l'hémorragie s'est sûrement passée parce qu'il ne s'est pas contracté suffisamment pour expulser le placenta et se resserrer.
Okay.
Donc en fait, quand le placenta est sorti, il a emmené un paquet de sang avec, quoi. Voilà.
Okay.
Donc la gynéco déjà nous a fait faire beaucoup d'échographies vers la fin pour suivre très précisément les estimations du poids du bébé et vérifier que ça ne partait pas en live, quoi. Donc Léon était estimé pour 3,5 kg pour la fin de la grossesse. Un truc comme ça. Non, un peu moins, 3,2 kg. Bref, dans des poids acceptables, donc la gynéco avait dit, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller tout à fait au terme, on va essayer de déclencher un tout petit peu avant.
Ok.
Alors on était dans une clinique en plus, donc ce qui était chouette aussi, c'était que déclencher voulait dire qu'on était quasiment sûr d'être accouché par elle, qui nous a quand même suivi toute la grossesse, donc ça c'est vrai que c'était un lien un peu sympa, quoi. Et puis évidemment, comme les plans, je pense que tout parent le sait, les plans sur la comète ne marchent jamais.
Oui. Donc, c'est un des enseignements principaux de la parentalité, hein, d'une manière générale.
Tu peux prévoir tout ce que tu veux, il y a toujours un truc qui va se mettre dedans.
Oui. Lâche l'affaire.
Et donc, évidemment, le déclenchement était prévu pour le jeudi. Alors, donc, nous, ce qu'on avait fait quand même, c'est qu'on avait anticipé, mes beaux-parents sont à la retraite. Et donc, du coup, on les avait fait venir une bonne semaine avant la date de déclenchement. D'ailleurs, pas une semaine, quelques jours, parce que du coup, le week-end, donc le déclenchement était prévu le jeudi, et le week-end juste avant, Katia, qui n'avait pas eu du tout de contractions, s'est mise à avoir des contractions.
Donc,
on a dit, merde. Donc, j'ai appelé mes parents en catastrophe le samedi soir à 21h30 en leur disant, est-ce qu'il n'y en a pas un de vous qui peut venir ce week-end? Parce qu'on se demande si ça va pas. Voilà, quoi. Et Toulouse, c'est 2h30, mais Paris, c'est un peu plus long, donc on ne pourrait pas les faire venir tout de suite. Donc, ma mère est arrivée sur le week-end pour faire la transition. Et les parents de Katia ont pris un train ensuite pour nous rejoindre et donc rester au cas où il se passe un truc avant le déclenchement. Donc, déclenchement prévu le jeudi. Et le mardi, à 3h du matin, elle perd les os. Donc bon, heureusement, du coup, à ce moment-là, il y avait les beaux-parents à la maison qui ont pu gérer Gaspard.
Ouais.
Donc on est parti à la maternité dans la nuit.
Comment s'est passé l'accouchement?
Eh ben, à l'opposé.
Ouais.
Bon, les deuxièmes vont toujours plus vite, mais là, ils sont allés vraiment beaucoup plus vite. donc, on est resté, on est arrivé à la maternité. La gynéco est venue nous voir le matin en me disant, ben, le col est pas du tout prêt, vous avez très peu de contractions quand même, donc ben, on va prendre des comprimés pour essayer de faire avancer le col. Et ensuite, on mettra le lendemain. Donc, le mardi matin, elle nous dit, ben, je vais vous donner des comprimés pour faire maturer le col. Et le lendemain matin, perfusion d'ocytocine pour lancer les contractions et on est parti, quoi. Et donc, à 14h, contraction en mode déclenchement vraiment fort de contraction. Enfin, départ vraiment en fanfare par rapport à Gaspard où ça avait été très lent, des contractions pas trop douloureuses, etc. Et donc, attends, au niveau horaire, ouais, c'est ça, vers 14h. Et donc, même plan que pour le premier, c'est-à-dire qu'elle s'était dit, ben, je vais commencer sans péridurale, mais cette fois-ci, je ne ferai pas l'erreur de la demander trop tard. Parce que la première fois, c'était trop tard, et voilà. Et donc, je pense que vers 16h, elle commence vraiment à avoir très mal, genre vraiment très difficile à supporter, donc elle appelle la sage-femme, qui lui dit, bah, écoutez, vous êtes à 3 ou 4, un truc comme ça, donc on va attendre encore un petit peu, au moins une heure. Prenez une douche chaude, prenez le temps. À 17h, de toute façon, je dois vous redonner un comprimé de maturation du col, donc on refera le point à ce moment-là. Donc à 16h45, elle me dit, là, je peux plus, vraiment plus, ou 17h, pas, enfin, genre juste avant qu'elle revienne, la sage-femme. Donc on l'appelle, elle regarde, elle dit, ah, vous êtes à 8. Bon. Eh ben, on va aller en salle d'accouchement tout de suite.
Pas de péri.
Ben, elle a été posée, mais en fait, elle a servi à rien.
Ouais.
Parce que du coup, le temps de marcher de la chambre jusqu'à la salle d'accouchement, elle était à 10.
Ah oui, ok.
Et Léon est sorti en 10 poussées.
Ah oui.
Donc vraiment, accouchement très différent.
Le gars n'a pas le temps.
Voilà. Donc, on est arrivé en salle d'accouchement, je pense, à 17h20, 25. Et il est sorti à 17h35.
Ok. Et ça s'est bien passé après?
Et ça s'est super bien passé. Alors, il était un tout petit peu plus petit. Genre, il faisait 3,9 kg, finalement.
Ouais, bah. Heureusement qu'il n'est pas arrivé à terme, celui-là.
Voilà. Donc, encore un deuxième costaud.
Ok.
Donc, vraiment, ouais, voilà, ça a été très rapide. Et du coup, les suites d'accouchement ont été incroyables, en fait. Par rapport à Gaspard, où ça a été difficile, ça a été très fatigant et tout. On a eu cette fois-ci le bébé où, en fait, toutes les... Enfin, tu sais, on te dit faut qu'il mange toutes les 3h30, 4h. Bah, du coup, même la première soirée, en fait, on a été obligé de le réveiller la nuit pour le faire manger, quoi. Bon, alors ce qu'on s'était déjà d'ailleurs dit, on ne fera jamais ça, mais bon, à la maternité, tu vois, faut rentrer un peu dans les cadres médicaux, etc. Donc on s'est dit, ben, on fait ça au moins à la maternité, puis en rentrant à la maison, on a lâché l'affaire, on a dit, ben, si t'as envie de dormir, tu dors.
Ok.
Voilà.
Comment ça se passe, alors, depuis la naissance de ton deuxième fiston?
Eh ben, très bien. Je pense que on est très heureux avec les deux enfants.
Ouais.
On a beaucoup de fatigue, évidemment, encore, parce que même si Léon dort quand même beaucoup plus, enfin dort plus facilement, là on est rentré, il est rentré à la crèche, donc on se tape tous les virus, enfin voilà, donc forcément un bébé malade ne dort pas, et un bébé qui fait ses dents non plus, donc là on est un peu en phase
de... Vous êtes un peu dans le dur là.
Ouais. la nuit dernière, j'ai dû dormir 4 heures je pense, un truc comme ça. J'ai pris le train en plus ce matin pour venir à Paris, donc bon, pas mal de fatigue. Par contre, beaucoup de bonheur. Je pense qu'on est hyper heureux en plus de l'accueil de Léon par Gaspard. Ça, oui. C'est un truc qui était très chouette aussi. Enfin,
on a bien pu... marché la propagande alors.
Ouais, très très bien, à tel point que on l'a fait venir avec nous à la maternité. C'était des moments super, quoi. Tous les quatre dans la chambre.
Trop cool.
Avec Gaspard qui était très content de voir son frère. On a plein de photos où, enfin, vraiment, genre, il voulait le porter tout de suite. Et je veux lui faire un câlin. Et même encore maintenant, quand il se couche le soir, il faut qu'il ait dit bonsoir à Léon, quoi. Parce que je veux dire bonsoir à Léon. Si jamais on lui a pas fait, il se relève. Papa, j'ai pas dit bonne nuit à Léon.
Good job.
Donc, vraiment chouette.
Franchement, c'est toujours une bonne idée quand l'aîné veut pas tuer son petit frère ou sa petite sœur, quoi. Tu vois. C'est...
Ça, c'était une inquiétude, et c'est vrai que du coup, ça nous a très vite rassurés.
Ouais.
Alors, bon, évidemment qu'il y a eu des réactions émotionnelles à côté.
Oui.
Donc, c'est-à-dire qu'il a été super avec son frère. Par contre, il nous a fait un peu vivre un enfer pendant quelques temps. À vraiment être en conflit très fort avec nous, à pas vouloir se coucher. Bon, des réactions plus que normales, hein,
normal.
Évidemment. Donc, on t'en veut pas du tout, mon chéri. On sait très bien que c'était... Enfin, Je pense que en tant qu'adulte, on oublie ce genre de choses complètement, mais évidemment, à 3 ans, c'est un bouleversement incroyable d'avoir quelqu'un d'autre qui arrive dans une famille, quoi.
J'ai partagé tes parents.
Ouais. Déjà à l'âge où
tout donné.
Ouais. Déjà à l'âge où à 3 ans, ben partager tes jouets à la crèche, c'est déjà difficile, quoi. Donc bon, voilà. Mais par contre, ouais, avec son frère, il a été adorable tout de suite, quoi. Et ça continue à être comme ça aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette.
Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler?
Je crois pas. Je ne dis pas de prix de montre, mais je pense que ça fait déjà longtemps.
Ouais, ça fait un peu plus d'une heure.
Ok. Non, j'ai pas l'impression que...
Ok.
Non. Ouais.
Bon, si t'écoutes le podcast, tu connais ma dernière question. Peut-être même t'as préparé.
Eh ben non, justement, je me suis forcé à essayer de pas y réfléchir.
Okay.
Donc, je vais
Qu'est-ce
devoir réfléchir en live.
À tes deux fistons, s'ils écoutent dans 10 ans, incroyable.
Donc,
il y aura 13 ans, 13 ans. Le grand gaillard, il sera là, oh papa.
Il sera au collège.
Ouais.
déjà, forcément que je les aime. Ça, je pense que papa et maman, ils vous aiment tous les deux et qu'ils sont très fiers de vous et très heureux de vous avoir. J'espère que ils seront contents dans leur vie, quoi. Je pense que on a pas beaucoup d'objectifs pour eux si ce n'est que ils soient heureux et qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment. Voilà. Vraiment, c'est le truc le plus important. On a tous les deux des métiers où nous, on est très contents de ce qu'on fait et on aime ce qu'on fait. Et on se rend compte à quel point c'est précieux dans la vie professionnelle de tout ça.
Ouais.
Donc, je pense que si on peut juste leur inculquer le fait d'être heureux dans leur vie, dans leur travail, dans leurs relations amicales et amoureuses, bah, ce sera déjà chouette.
Merci Clément.
Merci à toi, Fabrice.
Merci d'avoir attendu pendant tout ce temps et merci de nous avoir partagé ton émotion là. C'était chouette. Un grand merci.
Merci.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.